chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne À votre avis, Nathalie Barge, pour vous accompagner dans cette discussion. Le 20 février est la journée mondiale de la justice sociale. Ce concept est fondé sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Mais aujourd'hui encore, des centaines de millions de personnes ne bénéficient pas de la croissance économique. L'exclusion et les inégalités empêchent la majorité d'entre elles, en effet, de réaliser leur plein potentiel et pèsent sur les économies. Selon l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social, un travailleur sur cinq dans le monde vit dans la pauvreté. Au Niger, par exemple, une fille sur deux va à l'école primaire, une sur dix au collège et une sur cinquante au lycée. Tandis que le Sénégal s'est doté notamment de l'un des plus grands programmes de protection sociale d'Afrique. Alors, comment réduire les inégalités et progresser en matière de justice sociale selon vous? Et qu'en est-il surtout de la justice sociale dans votre pays, ou en tout cas, comment est-ce que vous la percevez? Comment la vivez-vous en somme? Et comment bénéficier du développement social à tous les niveaux, dans toutes ses composantes? C'est un questionnement notamment sur l'amélioration de notre niveau de vie, notre condition humaine. On a un auditeur en ligne. Oui, Salif Hosana, bonsoir, comment ça va?
Bonsoir, ça va très bien chez vous.
Ça va très bien. Alors, vous êtes à Ouagadougou et vous dites que l'inégalité sociale crée au sein de nos nations africaines, dites-vous, aujourd'hui le banditisme. On vous écoute pour la suite de votre commentaire.
Oui, en tout cas, l'inégalité sociale crée beaucoup de mouvements au sein de la nation. Et moi, je pense qu'il va falloir que l'État accentue certains efforts là-dessus pour diminuer cette inégalité-là. Parce que je pense qu'au sein de la société, ceux qui sont marginalisés vivent assez mal. Donc, une fois, ils sont fragiles à certaines crises. Donc, leur esprit est mal formé. Donc, dans ce cas de figure, si une fois l'État ne cherche pas à trouver une solution concernant cette inégalité, il y a des gens dans leur poste qui continuent toujours à corrompre la population, à piller la population, je pense que ça sera assez dur. Et que les enfants de cette population vivant sous, en tout cas, la pauvreté, seront exposés à certaines complications, le terrorisme, par exemple, un enfant qui vit de la pauvreté est exposé plus du terrorisme que celui qui n'est pas sous la pauvreté. Donc, il va falloir qu'il essaie de voir. Il y a des villages qui sont reculés, qui sont presque violents. Alors que pendant les votes, je dis que pendant les votes, ils vont se mobiliser, ils vont faire tous les moyens pour y arriver. Qu'aucune population marginalisée arrive à voter. Alors qu'après les votes, donc, il va falloir que les États, les gouvernements et les dirigeants de nos nations cherchent des solutions à cela. Donc, pour cette même inégalité, il va falloir que certaines nations, comme par exemple la nôtre, ressuscitent les méthodes, comment se faire pour indiquer ce qui est. Et puis aussi, à vrai dire, avec nos nations, et puis continuer à poser les nations dans des difficultés très profondes. Et ce bon point de vue aussi.
Un grand merci, Salif Hosana, à partir de Ouagadougou au Burkina Faso. Citons Loukman Taïrou, il pense que l'Afrique est une bénédiction. Quant à Chekna Ayoub, il a écrit sur le Facebook de VO Afrique, il faut que nos gouvernements créent des structures afin de réduire ces inégalités, et il nous suit à partir de la Côte d'Ivoire. Ben Benoît, on essaie de le joindre, il est à Kinshasa en République République démocratique du Congo. On essaie également de joindre Ousmane Barry. Ousmane Barry qui est en Guinée et qui a écrit sur le Facebook de VOA Afrique. Pour l'Afrique, il faut chercher à consolider la démocratie, lutter contre la corruption et redistribuer les revenus équitablement pour la population. On a en ligne Christian Politasi, Christian qui est à Kinshasa. Comment ça va, Christian?
Ça va bien, Madame Nathalie.
Ça va très bien. Alors, vous avez écrit sur notre Facebook que je vous introduis. Les gouvernants doivent travailler pour l'intérêt général en s'extirpant de toute idée bourgeoise. Et vous ajoutez, l'équilibrage salarial doit être le maître mot de leur gouvernance et l'état de droit, leur source de motivation. Je vous laisse développer ce commentaire.
Et donc, madame, ce que je dis, c'est là à vous dire tout simplement que lorsque les gouvernants sont, lorsque une personne a été votée, élue pour diriger, eh bien, il doit travailler pour l'intérêt général et non l'intérêt égoïste. Et donc, le fait pour lui d'être au service de la nation, il doit se comporter autant que serviteur et non autant que maître. Parce que je crois qu'il y a un auteur qui a dit que nous devons servir le peuple pour éviter que celui-ci ne se serve. Et donc, lorsque vous avez une partie de responsabilité, lorsque vous ne travaillez pas comme serviteur, vous allez vous considérer comme maître. Voilà pourquoi je dis qu'ils doivent s'extirper de toute idée de la bourgeoisie, de toute idée bourgeoise. Parce que lorsqu'on est serviteur, on ne travaille pas pour s'enrichir, on ne travaille pas pour chercher à avoir des millions, mais on travaille pour que les contemporains, pour que la population puisse quand même tirer profit de ce que nous faisons. Et au-delà de ça, lorsque vous travaillez, vous devez en même temps développer en vous l'état de droit. Parce que sans état de droit, vous allez vous considérer comme vous-même la constitution et vous allez continuer à torpiller les lois du pays sans pour autant s'inquiéter de la vie des autres. Et sans cela, madame, je crois que tout ce que nous pouvons dire ici, cela ne produira absolument rien. Je crois que l'homme politique actuel, surtout africain, doit travailler pour ses compatriotes, doit travailler pour le bien-être de la population, doit en même temps, madame, chercher à harmoniser les relations avec les pays voisins. Car vous êtes sans savoir que la RDC est aujourd'hui en proie. La haine de notre pays est aujourd'hui le théâtre de guerre parce qu'il n'y a pas vraiment une... En fait, dans le régime passé, il n'y avait pas une entente entre nos voisins. Et même, en fait, cette mésentente était causée parce que les voisins étaient en train de nous attaquer. Et aujourd'hui, grâce à la diplomatie, je crois que les choses évoluent déjà. Voilà pourquoi il faudrait également non seulement travailler pour l'intérêt du pays, mais aussi pour l'intérêt des nations régions, mais pour l'intérêt d'autres pays. Lorsque vous avez cette politique international, les choses iront dans les nuits. Moi, c'est un peu ça, madame.
Un grand merci, Christian Politasi, à partir de Kinshasa, avant de prendre Alphonse, qui est également en République démocratique du Congo. On peut rappeler ici l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui vise à promouvoir une Afrique où le développement est axé sur les besoins des populations et s'appuie notamment sur le potentiel des femmes et des jeunes et sur la prise en charge des enfants. Et ça, sachez que l'ONG Oxfam estime dans un rapport de juillet 2019 que les pays africains, particulièrement d'Afrique de l'Ouest, ne font pas assez pour répondre à ses objectifs en se fiant notamment à son indice ERI de l'engagement à la réduction des inégalités. On reviendra sur cette question-là plus tard. On prend Alphonse. Bonsoir, comment ça va?
Moi, je pense que c'est une question de conscience et de volonté politique. Hein. Vous savez que si les hommes politiques, tous les humains étaient animés de volonté de pouvoir vivre dans le bien-être tout le monde, je pense que cette vertu-là n'allait pas amener les humains à devenir égoïstes. Et donc, je pense que si on pensait à un pouvoir qui va abolir les inégalités dans le sens de pouvoir redistribuer équitablement les richesses à tous les humains, évitant les écarts de traitement, évitant les écarts de revenus mensuels, pour que chacun puisse vivre bien. Je pense que cela va à supprimer les inégalités et les injustices. Donc je pense que c'est une question où les hommes, comme se disent, nous ne pouvons pas voir les autres vivre dans la souffrance. Tout le monde doit bénéficier des produits, des revenus nationaux. Je pense que cela va éviter les inégalités. Vous savez, moi, j'apprécie beaucoup le système socialiste. Hein. Vous savez que le système socialiste, il a échoué parce qu'il a été mal appliqué. Moi, je pense que l'État doit être le patron de tous les pays. Et de lui, éviter tous ceux qui vont prendre la part des lions des richesses dans le pays et laisser l'État être le grand patron, être le grand gérant de façon à redistribuer toutes les recettes de richesses d'une façon équilibrée, d'une façon équitable aux populations. Mais si aujourd'hui je vois le capitalisme, par exemple, le capitalisme, on laisse des gens détenir des grosses richesses, cela crée des inégalités terribles. Et donc, je pense que c'est une question de conscience, c'est une question de volonté politique, de volonté des humains à pouvoir éviter des inégalités. Je pense que cela va aller. Mais dès que les hommes resteront égoïstes dans leur cœur, je pense que les inégalités existeront toujours. Je pense que les injustices sociales existeront toujours. Vous m'entendez, madame?
Oui, je vous entends très bien, Alphonse, et je vous remercie beaucoup pour ce commentaire. Karim Santi est à Ouagadougou. On essaie de le joindre. Alors, il dit qu'il est difficile de mettre fin à cela si les dirigeants ne changent pas leur mentalité en matière de gouvernance. Et nous essayons également de joindre Victoire Kimal, qui est à Kolwezi, en République démocratique du Congo. Victoire a écrit sur notre Facebook, le Facebook de VO Afrique, il a écrit « Les gouvernements de chaque pays doivent se focaliser sur les préoccupations du peuple. L'Afrique éprouve des difficultés au plan éducatif, dit-il, sanitaire et sécuritaire. » Un auditeur en ligne. On a Lucien qui est en ligne. Comment ça va?
Allô?
Est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends en 5 sur 5.
Alors vous êtes également en République démocratique du Congo. Comment allez-vous?
Je vais très bien, madame.
Alors vous dites que le moyen possible de lutter contre les inégalités est de placer l'humain au centre de tout, promouvoir la redistribution équitable des richesses du pays, et on vous écoute pour la suite.
Oui, si l'État mettait un système de redistribution équitable des richesses de l'État, chacun saura avoir ce qui lui revient. Parce que, imaginez des gens qui travaillent matin, midi, soir, mais ils n'ont pas un salaire équitable. L'État cherche à s'accaparer de la grosse part du lion, alors que le peuple qui travaille ne gagne absolument rien. Donc, on devrait redistribuer équitablement nos richesses afin de permettre à chaque citoyen de mieux vivre de son salaire. Vous voyez un peu ce que je veux dire?
Absolument. Et donc, vous précisez, chaque fonctionnaire de l'État doit recevoir son salaire en temps réel, à travail égal, salaire égal. Vous avez connu, vous, ce problème de salaire, notamment, personnellement?
Pas encore.
D'accord. Mais c'est un problème récurrent, c'est ce que vous voulez dire?
Si l'État met du moins possible et améliorer cette politique-là de redistribution, je vous assure que nous n'aurons plus à parler de l'inégalité sociale ou de quoi que ce soit.
Un grand merci, Lucien, pour votre contribution. Je voudrais citer Sédou Kassongo, qui est également, il est à Kinshasa. Alors, en tout cas, c'est les points qu'il veut mettre en avant. Donc, Sédou, alors il dit, pour réduire les inégalités, il faut assurer les libertés individuelles telles que prescrites dans la Déclaration universelle des droits humains, ratifiée par les différentes constitutions du monde, rendre la justice forte portée indépendante accessible pour tous sans discrimination aucune, rendre l'éducation de base gratuite pour favoriser la scolarité des démunis, faire la promotion des droits de la femme et défavoriser toute violence à son égard, renforcer le système public par l'accès au financement des petites et moyennes entreprises et encourager l'industrie artisanale, consolider les acquis de la démocratie par l'application de ses piliers et le numéro 7, amplifier l'autorité de l'État pour traquer les groupes armés. Voilà, ce sont les propositions, les points de Sédou Kassongo. On a Jean-Claude de Sizouaka qui est à Mujimaï au Kassai oriental en RDC. Bonsoir, on vous écoute.
Bonsoir madame, bonsoir à nos leaders.
Bonsoir à vous.
Pardon ?
Oui, je vous écoute.
Oui, de notre côté, nous pensons que l'inégalité sociale est un fruit de la volonté de notre gens, surtout en Afrique. On a eu aussi à comprendre quelque chose. Jusqu'en mars 2019, un parlementaire congolais touchait environ 14 000 francs congolais et une centenaire touchait 80 000 francs congolais. On voit que dès le départ, il y a une unité de la société. Alors, pour répondre à votre question, comment il le dit, nous pensons qu'on doit offrir à la population un cadre social adéquat pour les populations à l'initiative privée.
Alors, Jean-Claude, je suis un petit peu désolée. Je vais être obligée de vous arrêter là parce qu'on a vraiment un problème de... On vous reçoit très mal, mais je vais vous citer, comme vous avez écrit votre commentaire sur Facebook, hein, vous dites on peut le faire en rendant une grande partie de l'enseignement gratuit, comme c'est le cas pour l'enseignement primaire en RDC, en faisant vivre le peuple dans un environnement favorable. Vous parlez de l'eau, de l'électricité, de l'accès libre à Internet, et vous dites ces facteurs encouragent et incitent la population à l'initiative privée et garantissent la justice sociale qui amène au développement rapide. En Afrique, cela ne se réalise pas beaucoup par semblant politique avec une dose de mauvaise volonté, dites-vous. Jean-Claude, on est désolé, c'est la ligne, c'est pas nous, en espérant que la prochaine fois, ce sera mieux. Avant de prendre un autre auditeur, je voudrais revenir sur le rapport d'Oxfam qui a écrit en Afrique de l'Ouest « Les inégalités ont atteint un niveau de crise alors qu'un nombre faible mais croissant d'individus s'enrichit de manière inouïe, l'immense majorité de la population se voit privée des éléments les plus essentiels à une vie digne, tels qu'une éducation de qualité, des soins de santé et un emploi décent, et cela en dépit d'un essor économique remarquable sous l'impulsion des industries extractives, souligne-t-elle, et elle préconise que les gouvernements adoptent une fiscalité progressive, augmentent les dépenses sociales, renforcent la protection du marché du travail, investissent dans l'agriculture et défendent le droit à la terre. Un auditeur en ligne. C'est Karim Sawadogo au Burkina Faso. On vous écoute.
Ok. Concernant les inégalités sociales, pour moi, c'est la malgouvernance, la gabegie et puis le népotisme des dignitaires des différents régimes. Parce que le problème actuellement, on remarque un peu partout. Il n'y a pas une véritable politique du développement social pour permettre à la population de vivre de façon harmonieuse en Afrique. Pourtant, on nous parle chaque fois de démocratie, démocratie. Pourtant, c'est pas ça en réalité.
Donc, une déception hein, de la part de Karim Sawadogo. Un grand merci, Karim. Sachez qu'on estime que 70% des filles les plus pauvres au Niger n'ont jamais fréquenté l'école primaire. Les fournitures et équipements scolaires représentent presque 75% des dépenses en matière d'éducation pour les ménages les plus pauvres. Et le Niger est le pays avec le niveau d'éducation le moins élevé au monde. La durée moyenne de scolarisation étant d'à peine 18 mois. Ça, c'est les chiffres donc de ce rapport d'Oxfam. Mais si on parle du Sénégal, par exemple, le Sénégal a augmenté ses dépenses publiques consacrées aux services de santé et à l'éducation, ce qui en fait le 13e pays au monde en termes de part de dépenses dans ces secteurs en pourcentage PIB. Donc une bonne note pour le Sénégal. Est-ce qu'on a un autre auditeur en ligne? Alors on va citer Joël, notamment Joël Unjo qui est au Bénin. Alors il dit sur notre Facebook que vouloir réduire les inégalités relève de l'utopie et vouloir progresser en matière de justice sociale n'est qu'un leurre. Alors c'est très pessimiste, on va essayer d'être un petit peu plus optimiste. Jonathan Chiswaka, lui, il dit une gouvernance tournée vers le bien-être du peuple est la solution pour une justice sociale forte et imposante. Il est à Kinshasa. On essaie de les joindre tous les deux. Joël, on essaie de joindre Jonathan. Et bonne nouvelle, on a Joël. Comment ça va? Est-ce que vous m'entendez? Visiblement, Joël n'est pas en ligne. C'est le calme plat, c'est le silence complet. C'est bien dommage. Alors, je viens de citer Jonathan Chiswaka. Est-ce que c'est Joël?
Oui, c'est monsieur Joël Rondia depuis Cotonou.
Formidable, on vous écoute.
Oui, c'est le sujet, là.
Oui, voilà, c'est sur donc les inégalités, la justice sociale.
Oui. Les inégalités, la justice sociale, ça profite à une certaine classe. Donc, on ne peut pas espérer que ces phénomènes puissent finir un jour. Parce que ces facteurs profitent certains et c'est ça qui les élève. Ils ont la puissance, ils ont la fortune, ils ont tout. Donc, si tout le monde était... Et le même sur le même pied d'égalité, bon, ça ne va pas les enchanter. Donc, certains ont intérêt à ce que les Africains soient dans la pauvreté pour qu'eux, ils soient les maîtres du monde. Donc, espérer que la justice sociale puisse se rétablir un jour, ce ne serait pas de ce monde.
Alors vous êtes très pessimiste, Joël. Est-ce que vous pouvez entrevoir éventuellement une petite note d'optimisme avec la nouvelle génération qui est consciente de tout cela et qui est pour la justice sociale?
Ce serait purement de l'utopie, à voir l'évolution du monde, comment le monde évolue. Ce serait purement de l'utopie.
Merci beaucoup Joël. Je vais citer Jean-Claude Coco. Jean-Claude Coco a écrit sur le Facebook de VO Afrique « Lorsqu'on veut penser la notion de la justice sociale pour réduire les inégalités, la solution est de repenser la notion de redistribution. » Vous avez beaucoup parlé tous de la distribution des richesses, effectivement. Yadama Musso, il a écrit « Un bon moyen de lutter contre les inégalités et de promouvoir la liberté de toute race, de toute tribu. Tant que le racisme surgit encore sur Terre, les inégalités ne cesseront jamais d'être », dit-il. Quant à Alassane Cissé, il pense qu'en Afrique, on maintient les gens dans la pauvreté pour les acheter quand le besoin est là, notamment pendant les élections. Donc ça, c'est le commentaire de Alassane Cissé. On pourrait peut-être citer pour terminer une partie du classement de l'engagement des pays à la réduction des inégalités en Afrique de l'Ouest. Donc c'est le classement Oxfam. Le numéro 1, c'est le Cap-Vert. Numéro 2, Mauritanie. Numéro 3, Sénégal, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et les trois derniers sont le Niger, la Sierra Leone et le Nigeria. Alors, on prend très rapidement Yadamas parce qu'on est vraiment à la fin de l'émission. Yadamas, bonsoir. À vous la parole. Je vous écoute. Vous avez 15 secondes. Je vous écoute.
Oui. Moi, je voulais juste dire que lorsque les gens font encore... Alors.
Oui, je vous écoute. Allez-y. Il vous reste 10 secondes.
Ah, mais je ne comprends pas. Alors, donc, le racisme traîne à bord sur cette terre où il n'a pas rien. Nous vivons des cas qu'on déplore chaque jour ici par nos frères.
Un grand merci, Adamas. Comme je vous l'avais dit, on arrive à la fin, malheureusement, mais je vous ai cité. Merci beaucoup à vous tous. Un grand merci à Georges Léonard Sagnot, à la production. Restez avec nous sur VO Afrique pour la suite de nos programmes.